Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle saison de Bulle d'Histoire sur Art District Radio. On reprend nos entretiens bimensuels et je suis aujourd'hui avec Serge Evanzik, qui est éditeur de bande dessinée, un peu particulière, on va parler de ça. Sa maison d'édition s'appelle Ça et Là et je commence par ma question traditionnelle qui ouvre toutes les bulles d'histoire. Serge, qui es-tu ?
Bonjour, et donc je suis un éditeur de bande dessinée, effectivement, qui a créé une structure qui s'appelle Ça et Là, comme tu l'as dit, il y a 16 ans maintenant, après un parcours dans l'audiovisuel. Moi, en fait, j'avais fait une école de commerce et après j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la production audiovisuelle, télévision, et notamment dans le dessin animé. J'étais producteur de dessin animé pendant 5-6 ans, avant de me lancer dans l'édition de bande dessinée. Donc, j'ai 52 ans voilà, en résumé, ce que je suis, qui je suis.
Donc passant du dessin animé à la bande dessinée, on peut se dire qu'il y a une certaine logique.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça a été. Il y a des choses en commun, évidemment, plein de choses en commun, hein, ne serait-ce que beaucoup d'auteurs et d'autrices qui travaillent à la fois en bande dessinée et en dessin animé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le dessin animé, c'est quelque chose d'assez compliqué, assez lourd. Et en revanche, la bande dessinée, c'est un côté plus artisanal et plus facile aussi, même s'il y a plein d'écueils, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Il y a des choses qui sont très compliquées, évidemment, dans le milieu de la bande dessinée ou de l'édition en général. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a une expérience dans l'audiovisuel, au début, en tout cas, tout paraît plus simple quand on se lance dans l'édition parce que les contrats sont moins compliqués, les enjeux financiers sont mille fois moins importants, significatifs, les équipes sont ultra réduites à quasiment très peu de personnes, quoi, contrairement au dessin animé. Donc c'est vrai que ça présentait cet intérêt-là aussi.
Et qu'est-ce qui a déclenché ton envie, ton désir de publier des bandes dessinées ?
Ah bah c'est surtout en tant que lecteur en fait, tout bêtement, hein, comme la plupart de mes confrères et consoeurs, on est tous des grands lecteurs, on a tous été des grands lecteurs, lectrices de bandes dessinées, et on avait cette appétence-là et cette envie-là. À vrai dire, j'hésitais entre deux choses quand j'ai décidé de quitter la production de dessins animés. J'hésitais entre monter un label d'édition de DVD ou un label d'édition de bandes dessinées. Bon, bah, j'ai eu un nez creux parce que c'est vrai que le DVD ça a été un petit peu compliqué ces dernières années. Mais c'était voilà, les deux champs qui m'intéressaient vraiment énormément, c'était le DVD, l'édition DVD et l'édition de bande dessinée. Ouais.
Alors, les bandes dessinées que tu publies sont des bandes dessinées, j'allais dire, tu es un éditeur radical. C'est comme ça que je pourrais définir un peu ça là. Radical par les choix éditoriaux, par le style de bande dessinée. Par le fait aussi que tu ne publies que des auteurs étrangers. Tu ne publies pas d'auteurs francophones ou français, en tout cas.
Non, c'est vrai, tout à fait. C'est vraiment le parti pris que j'ai eu en créant la maison d'édition. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la radicalité, mais c'est vrai que j'avais... Alors, moi, en tant que lecteur de bande dessinée, je lisais beaucoup de bandes dessinées étrangères, notamment anglo-saxonnes, de très longue date. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de titres américains, notamment, qui restaient inédits en français. Et je me suis dit, bon, bah, si personne veut les publier en français, je vais m'en occuper moi-même. Donc, et j'avais envie d'avoir une spécificité aussi, c'est-à-dire de pouvoir distinguer les éditions Ça et Là des maisons d'édition qui existaient déjà à l'époque. Quand j'ai créé Ça et Là en 2005, il y avait déjà une centaine, je pense, de structures qui éditaient la bande dessinée. Maintenant, on est 400 ou 500. Et donc, ça m'intéressait d'avoir une singularité, de pouvoir, en lançant la maison d'édition, pouvoir expliquer de façon assez simple ce que j'allais faire et quel était le projet. C'est vrai que le fait de me concentrer ou de me consacrer au domaine étranger, ça m'intéressait déjà moi, parce qu'en tant que lecteur, j'aimais ça. Et ça m'intéressait aussi en tant que futur, et donc du coup éditeur, parce qu'en termes de communication, par rapport aux libraires, par rapport aux journalistes, même par rapport aux lecteurs et lectrices, ça permettait, je me disais que ça permettait d'identifier de façon assez claire la maison d'édition.
Parce que grâce à toi, on a découvert des auteurs aussi de tas de pays dont on pensait, à tort évidemment, qui qu'il n'y avait même pas de bande dessinée dans ces pays.
Ouais, ouais, ouais.
Enfin, l'Autriche, William les auteurs, mais là, tu as des auteurs autrichiens, iraniens, syriens,
ouais. Ouais, ouais.
Du nord de l'Europe,
ouais.
Évidemment des Américains.
Ouais.
Comment tu trouves tous ces gens-là? Parce que ce n'est pas forcément des gens qui sont même édités dans leur pays.
Non, 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 c'est vrai. Ben, en fait, on a même des auteurs, des autrices de 25 pays différents. Maintenant, ça s'est vraiment élargi. Moi, ça m'intéresse, comme tu le dis, de faire découvrir des pans de la bande dessinée qu'on connaît, ou des genres de bande dessinée de pays qu'on connaît très très peu pour leur bande dessinée. Et je le fais de façon de plus en plus volontaire depuis quelques années, parce que c'est plus facile de trouver de la bande dessinée américaine, parce que le marché de l'édition aux États-Unis est extraordinairement dynamique, il y a beaucoup d'éditeurs, il y a énormément de lecteurs et lectrices, il est très développé, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices, donc on peut assez facilement se concentrer sur le marché américain, mais c'est, même si j'adore ce que font beaucoup d'auteurs et autrices de ce pays, ça m'intéresse, comme tu le dis, de faire découvrir des... Par exemple, cette année, on avait un auteur mexicain. L'année dernière, on a commencé à travailler avec un auteur polonais. Voir des pays qui sont très, très peu connus, comme la Thaïlande ou l'Indonésie pour la bande dessinée. Et en fait, c'est relativement facile de... Enfin, il faut chercher. Mais on a beaucoup de moyens en tant qu'éditeur, en tant que maison d'édition, de trouver des choses pas très connues. Alors, c'est un travail qui, à la fois de veille, c'est-à-dire d'aller suivre... ce qui se fait à l'étranger en suivant les blogs des auteurs ou les blogs des journalistes dans tel ou tel pays qui parlent de ce qui se passe dans leur pays en termes de production de bande dessinée. Ça veut dire aussi aller sur des festivals ou à la rencontre des éditeurs et des auteurs étrangers. Alors, on a la chance en France d'avoir le festival d'Angoulême où il y a une partie que le public ne connaît pas mais qui réserve aux professionnels, mais où les éditeurs et les auteurs du monde entier viennent en fait et se rencontrent. Alors, pas tous, hein, mais parce que tout le monde ne vient pas à Angoulême, mais il y a quand même plein d'étrangers... auteurs ou éditeurs qui viennent à Angoulême, et c'est un moment où on peut se rencontrer, échanger, et expliquer ce qu'on publie. Et moi, c'est là où je peux découvrir justement des auteurs qui viennent sur mon stand pour présenter des projets. Alors, il y a beaucoup d'auteurs européens, mais pas que. Et rencontrer les éditeurs pour qui me présentent leur catalogue et qu'éventuellement j'en achète les droits pour les publier après en langue française. Et il y a aussi un événement qui est vraiment le gros événement du monde de l'édition à l'échelle internationale, c'est la foire de Francfort qui a lieu tous les ans en octobre, où là, pour le coup, ça concerne tous les secteurs de l'édition, mais là, vraiment les éditeurs du monde entier qui sont là, et de tous les pays, de toutes les zones géographiques. Et c'est aussi un endroit où j'ai pu découvrir des auteurs ou des autrices que je ne connaissais pas, ou même des éditeurs et que je ne connaissais pas, et faire affaire avec eux, c'est, enfin, en tout cas choisir de publier certains de leurs titres en français, notamment par exemple Carlène de Villiers, qui est une Sud-Africaine, que j'avais jamais entendu parler du livre, et c'est en rencontrant son éditeur qui était un Suisse allemand que je suis tombé là-dessus. Et c'est un bouquin qui est important dans notre catalogue, ou le livre de l'Indonésienne Tita Lasarati, Bandung, qu'on a publié il y a quelques années. C'est pareil, c'était l'Indonésie qui était l'invité d'honneur à la foire de Francfort cette année-là, et en farfouillant sur tous les stands indonésiens qui étaient là, je suis tombé par hasard sur cette bande dessinée-là qui m'intéressait. Donc voilà, c'est un peu comme ça du hasard. Et puis c'est vrai qu'au fil du temps, je reçois maintenant que ça est là, est un peu connu dans le milieu de la bande dessinée à l'étranger, je reçois de plus en plus de projets ou de propositions d'achat de droits en fait de d'éditeurs étrangers ou d'agents étrangers ou d'auteurs ou d'autrices qui m'envoient eux-mêmes directement les livres ou les projets qu'ils ont, et ça c'est même assez conséquent maintenant tout ce que je peux recevoir.
Est-ce que ça a été difficile d'imposer la ligne de ça et là dans le monde de la bande dessinée?
Alors, je ne sais pas si on a réussi à l'imposer, mais...
C'est quand même reconnu pour la qualité de ton travail, il y a quand même des prix qui arrivent.
Oui, c'est vrai qu'on est, ouais, on a une certaine reconnaissance, en tout cas critique, je dirais, critique. Et des festivals, notamment au Festival d'Angoulême, on a eu la chance d'avoir une trentaine de livres sélectionnés et 3 ou 4 primés. Je ne dirais pas que c'est difficile, il faut être persistant, voire têtu, ou dans le déni, une conjonction de tout ça, ce qui fait aussi le métier d'éditeur. Mais je pense que ce qui est intéressant, en tout cas de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est d'être constant dans les types de choix que je peux faire, parce que c'est ça qui crée aussi la cohérence du catalogue, la cohérence de ce que nous, on peut proposer en tant que maison d'édition. Et c'est ça qui, de là, se dégage une forme de ligne éditoriale, même si le champ est assez large, parce que le fait d'éditer des auteurs et des autrices étrangers, ça ne fait pas seulement une ligne éditoriale, c'est, Il se trouve qu'on publie aussi beaucoup de bandes dessinées qui relèvent d'un genre qu'on appelle la non-fiction ou la bande dessinée du réel, donc beaucoup de autobiographies, documentaires, témoignages, parce que c'est un registre qui m'intéresse et on retrouve beaucoup de ça dans le catalogue de celle-là, mais pas uniquement. De temps en temps, je peux avoir un coup de cœur sur un truc de science-fiction. On a beaucoup de fiction réaliste aussi, hein, de fiction ancrée dans la réalité, mais des fois on fait des choses qui relèvent du fantastique ou du genre, même si c'est pas ce que je défends le mieux, donc du coup je me concentre sur des autres registres.
Oui, parce qu'il y a un petit côté militant dans ce que tu publies. Il y a des auteurs, l'auteur iranien notamment, qui est un magnifique auteur, le dessinateur syrien, même aussi le livre que tu as fait sur la dépression, qui est un livre pas facile à lire, parce qu'il on sort pas de là forcément en pleine forme, ou en tout cas on respire pas la joie, mais il y a un côté, c'est ce que j'appelais radical au début.
Alors c'est vrai que j'ai moi une... Alors en tant que lecteur, et de façon plus prononcée en tant qu'éditeur, je suis attiré par des bandes dessinées qui relèvent pas forcément du divertissement. Et c'est vrai que ça m'intéresse d'être confronté à la réalité de... les thèmes de société m'intéressent en fait. Et je trouve que c'est très intéressant quand la bande dessinée justement s'empare de thèmes de société pour en parler. On a un auteur par exemple comme Dave Bagdef qui l'année dernière a fait un livre remarquable qui s'appelle Kent State sur la répression par la garde nationale américaine d'une manifestation contre le Vietnam dans les années 70, il y a 50 ans. Donc ça c'est un truc qui reste d'actualité hein, malheureusement. Et on a beaucoup d'auteurs et effectivement de la bande dessinée documentaire qui peut parler de thèmes comme même de la bande dessinée didactique, je dirais. On a fait une série de trois ouvrages sur l'anxiété, la douleur, le trauma, qui sont des petits livres en 32 pages, vraiment de bande dessinée didactique. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse quand on utilise la grammaire de la bande dessinée, le médium de la bande dessinée pour faire passer des informations, expliquer des choses. Parler de soi, évidemment, quand c'est d'autobiographie comme Manana Estana, dont je parlais, ou Carlyne de Villiers, la sud-africaine dont je parlais, ou l'illustre qui a fait Autre n'est pas assez, qui est un des livres importants du catalogue de Sahela, une autrichienne qui parlait de ses années punk dans les années 80 en Autriche et en Italie. Ça, c'est vrai que c'est des registres qui m'intéressent. Et en général, quand les auteurs ou les autrices parlent d'eux-mêmes, c'est pas pour dire que tout va bien. De temps en temps, on fait un peu de bande dessinée d'humour, de livres d'humour. Parce que je peux avoir un auteur comme Alberto Monde, par exemple, avec qui est un Chilien. On a commencé avec lui à faire un ouvrage autobiographique qui s'appelait Roku. Et puis après, il m'a montré ce qu'il faisait par ailleurs, qui étaient des petits dessins d'humour et que je trouvais super drôle. Donc j'ai dit, OK, allons-y. Parce qu'on a aussi, au-delà de la ligne éditoriale, il y a aussi une politique d'auteur, c'est-à-dire la volonté que j'ai de suivre les auteurs dans la durée. Et on a beaucoup d'auteurs de ça et là qui sont des deux auteurs pour lesquels dont on a publié 3, 4, 5, voire 6 ouvrages, parce que je continue à les suivre et eux-mêmes peuvent avoir des parcours d'auteurs où ils évoluent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se concentrer uniquement sur, pas faire uniquement de l'autobiographie ou faire uniquement de la fiction historique. Et donc, je peux aussi les accompagner, même si ça déborde un peu de la ligne éditoriale de ça et là, ça ne me gêne pas, parce que c'est vrai qu'on est une toute petite maison d'édition indépendante comme ça et là. Nous, on a publié 175 titres à ce jour, en 16 ans. Je peux tout à fait me donner la liberté de faire un titre qui paraît incongru. Parce que j'ai eu un coup de cœur et je peux faire ce choix-là. C'est le luxe qu'on peut avoir qu'on est un petit éditeur indépendant.
Parce qu'il y a des auteurs qui sont des auteurs, ça et là. Il y a Derf Bagderf, il y a Marcelo Quintanilla, il y a Uli Lust, qui sont vraiment des gens qui incarnent ton travail.
Oui,
de façon très différente. Hein.
Ouais, c'est vrai, des auteurs qui ont chacun leur univers, leur singularité, mais qu'on suit depuis des années maintenant. Et Manane Estani, dont tu parlais tout à l'heure, ou Anneli Furmark, qui est une autrice suédoise, en a publié 5 titres. Ça, c'est des auteurs ou des autrices, quand on parle, ils me disent « bon ben voilà, là j'ai un nouveau projet, ça va parler de ça et ça », et je m'engage à ce moment-là. C'est-à-dire que j'attends pas qu'ils aient fini un livre pour en acheter les droits de publication en langue française. On s'engage 2 ans, 3 ans, 4 ans avant que le livre soit terminé, parce que c'est des auteurs dont je connais le travail, dont j'apprécie le travail, et avec lesquels j'ai l'intention et l'envie de continuer à travailler dans la durée.
Alors, avant de parler des nouveautés de ça et là, parce qu'il y en a, pas mal, on les a devant nous là, tu as aussi une particularité, ce que tu es le seul à le faire, c'est publier chaque année les chiffres de vente de tes albums.
Ouais.
Donc ça, c'est assez mystérieux, parce que tu es le seul, je répète. Les autres éditeurs, c'est quasiment du secret militaire. Pourquoi tu as décidé de faire ça chaque année ?
En fait, ce que je trouve mystérieux, c'est que les autres ne le fassent pas. j'ai toujours été très surpris quand je me suis lancé dans la bande dessinée, de cette espèce d'opacité qu'il y avait sur les chiffres. En fait, les seuls chiffres qu'on connaît dans la bande dessinée, c'est les chiffres des best-sellers. C'est-à-dire que les éditeurs ne communiquent que sur les livres qui vendent à 100 000 ou 500 000 exemplaires, ou voire 2 millions d'exemplaires, comme c'est le cas d'Astérix cette année. Et ça, je trouve que ça ne veut rien dire, parce que ça ne dit rien de ce que c'est que la réalité de la publication d'une bande dessinée en France et de la réalité des ventes d'une publicité en France. Nous, on sait très bien, les éditeurs, puisqu'on a accès à nos propres chiffres et on a accès aussi aux chiffres de nos collègues via des bases de données, que en fait, la plupart des bandes dessinées qui sont publiées dans l'année vont se vendre à moins de 1000 exemplaires. C'est la médiane des ventes. C'est-à-dire que la moitié des nouveautés publiées dans l'année vont se vendre à moins de 1000 exemplaires. Ça, c'est un chiffre qui est intéressant. Parce que derrière ça, ça veut dire que quand on va publier un titre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se vende à 10 000 exemplaires, même s'il y a beaucoup de presse, même s'il y a un engouement des libraires. Ça peut arriver, mais ça va être très très ponctuel. C'est-à-dire qu'il faut plutôt s'attendre à ce qu'il se vende à 1000, voire un peu moins. Nous, il y a la moitié des bouquins qu'on publie dans l'année qui vont se vendre à 700 ou 800 exemplaires. Donc c'est un élément que moi je dois intégrer pour l'économie de la maison d'édition et puis aussi par rapport aux auteurs et aux autrices. C'est-à-dire que quand les auteurs et les autrices savent, et c'est pour ça, et pour revenir à ta question, c'est pour ça que moi je communique sur la réalité des chiffres et sur les ventes qu'on fait chaque année sur nos nouveautés, parce que je trouve que c'est important que les auteurs et les autrices, mais au-delà de ça, même les journalistes, les libraires, les bibliothécaires, soient au courant de la réalité des ventes et que, en fait, un livre qu'ils ont à 5000 exemplaires, c'est déjà un succès. Parce que 80% des nouveautés de l'année vont se vendre à moins de 5000 exemplaires. Donc un livre vendu à 5000 exemplaires, c'est un succès. L'économie du livre et l'économie personnelle aussi des auteurs et des autrices doit se construire autour de ça. Ça veut dire faire des choses en parallèle, exiger effectivement d'être rémunéré quand il y a des dédicaces, rémunéré pour les interventions. Je parle du point de vue des auteurs, mais c'est parce que c'est tout un écosystème qui doit se construire autour de ça et auquel nous en tant qu'éditeurs, et notamment les éditeurs indépendants, on a notre part et notre responsabilité. Mais comme les avances qu'on verse aux auteurs, donc là je rentre vraiment dans la cuisine de l'édition, mais comme les avances qu'on verse aux auteurs sont relativement faibles et que les ventes sont en général très faibles, il faut qu'on trouve les moyens de faire en sorte que à la fois les maisons d'édition puissent être pérennes et évidemment que les auteurs et les autrices puissent s'en sortir avec des revenus complémentaires. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé dommage que dans le disque, dans le cinéma, on connaisse les chiffres d'entrée ou les chiffres de vente.
Oui, c'est vrai.
Mais que dans le livre, il y a une opacité. Alors c'est en train de changer puisque les sociétés d'auteurs sont en train de négocier avec les syndicats d'éditeurs pour qu'il y ait des portails où les informations soient données.
Et fiables, surtout.
Et fiables, ouais. Je pense que ça va arriver, mais je continue à le faire. Alors j'ai vu qu'en littérature générale aussi, il y a des petits éditeurs qui commencent à le faire. Alors ça peut paraître paradoxal, mais je connais aussi des auteurs ou des autrices qui sont réticents à ce qu'on communique sur les ventes. Parce qu'en fait, donner les chiffres des ventes, c'est montrer à quel point les livres se vendent peu.
Ouais.
Il faut savoir qu'un roman, un premier roman, ça se vend à 500 ou 600 exemplaires en moyenne, qu'il soit chez Gallimard ou chez une micro-société d'édition. Et ça peut être violent, ça l'est pour la maison d'édition, quand c'est une petite maison d'édition, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a eu des pertes, etc. Mais ça peut être très violent pour l'auteur ou l'autrice concernée. Donc, c'est pas évident, pas quelque chose qui est forcément facile à articuler.
Donc là, tu m'as amené je sais pas s'il y a toutes tes nouveautés, mais il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux nous les présenter? Il y a un Marcelo Quintanilla que j'avais découvert avec son premier livre chez toi, qui était il est brésilien, donc c'était une sorte de polar qui était assez...
Qui s'appelait Tungsten, qui a eu le prix du polar à Angoulême l'année de sa publication.
Qui était assez envoûtant. On découvrait à la fois le Brésil et en même temps un super auteur.
Ouais. Et d'ailleurs, la BD, la bande dessinée Tungsten, a été adaptée au cinéma par un réalisateur brésilien. Le film n'est malheureusement pas sorti en salle en France, mais il était très bien fait, parce que c'est un auteur qui a une narration et un découpage très cinématographique. Donc c'est vrai que Tungsten se prêtait particulièrement bien à l'adaptation au cinéma. Et après Tungsten, on a continué. Alors on avait d'abord fait Mes chers samedis, qui est un recueil d'histoires courtes avec lui. Et on a publié plusieurs ouvrages de cet auteur-là, tels que De Verre, Les Lumières de Niterói, L'Athénée. Et effectivement, la nouveauté de cette année, ça s'appelle Écoute Jolie Marcia, qui sortira le 10 septembre en librairie, et qui est un peu dans la veine de Tungsten, dans le sens où il y a une narration, il y a un suspense, il y a un côté... presque thriller, puisque ça parle d'une infirmière qui a une trentaine d'années, 35 ans, qui avait une fille quand elle était très très jeune, quand elle avait une quinzaine d'années, et qui se retrouve en conflit régulier avec cette fille qui a une vingtaine d'années, avec laquelle elle vit dans les favelas, et cette fille-là se retrouve à côtoyer le crime organisé, les loubards de la favela, mais aussi une espèce de mafia auquel une milice paramilitaire est associée. Et donc Marcia, donc la mère, va essayer par tous les moyens de faire en sorte que sa fille s'en sorte. Et il y a un vrai suspense, c'est raconté vraiment de main de maître, et des personnages qui ont une épaisseur psychologique très forte, parce que c'est ça que j'aime beaucoup dans le travail de Marcelo Quintanilla, c'est que les personnages sont hyper attachants, c'est pas du tout manichéen, et puis il y a un registre graphique très étonnant, une palette de couleurs aussi très étonnante, qui est difficile à décrire en radio, mais que les gens pourront voir quand ils verront la couverture.
Et qui tranche beaucoup avec son style d'histoire.
On est
surpris à chaque fois. Quoi.
Et c'est à chaque livre, il change. Change. C'est un auteur qui globalement reste dans une forme de bande dessinée relativement réaliste. On n'est pas dans une bande dessinée ultra stylisée, mais il fait des ajustements qui sont très sensibles d'une bande dessinée à l'autre. Et c'est vraiment et même les formats. C'est-à-dire que là, par exemple, Écoute Jolie Martien, c'est un grand format, 25 x 31 cm, alors que des fois, on a fait des livres avec lui qui étaient dans le format du roman graphique, 17 x 24 cm, en souple. Il a fait des livres en noir et blanc comme des livres en couleur, voilà. Donc, un univers très varié. Les nouveautés du deuxième semestre à paraître. Alors, il y en a un qui est déjà sorti fin août, qui s'appelle La capacité de survie d'une autrice coréenne, sud-coréenne, qui s'appelle Kim Song-hee. On avait déjà commencé à travailler avec la Corée il y a 2 ans avec une autrice qui s'appelle Sangaram. On avait fait 2 femmes, un ouvrage très intéressant. Et La capacité de survie, c'est une belle petite découverte. Une autrice qui a un univers graphique hyper singulier, avec des personnages très stylisés pour le coup. Elle a une façon très intéressante de dessiner le Séoul, les décors urbains, dans un dessin en bichromie, en noir et blanc, plus une couleur, et qui raconte en fait, c'est pas autobiographique, mais on sent que c'est très inspiré de la réalité, tous les problèmes rencontrés par une jeune quarantenaire de Séoul, qui se retrouve confrontée à l'ultralibéralisme de la société coréenne, qui est déjà une société très patriarcale. La place des femmes n'est pas évidente, mais en plus une société où il y a une forme d'ultralibéralisme qui règne. Et elle, en tant que prof enseignante dans un DAU privé, mais contractuel et non titulaire, elle a l'impression d'être exposée à un risque d'être virée du jour au lendemain. Ses parents ont l'âge d'être à la retraite, mais ils sont obligés de bosser pour avoir des revenus complémentaires. Son copain bosse dans une association d'aide aux migrants étrangers qui doivent, pour les aider à faire face aux désagréments qu'ils peuvent avoir, comme les migrants étrangers peuvent avoir des problèmes en France parce qu'ils sont surexploités dans des conditions vraiment horribles. Donc un travail vraiment intéressant et original.
Un travail documentaire en plus.
Et donc oui, La capacité de survie est effectivement, il y a un côté très documentaire. Et ça se passe très précisément pendant des élections, une campagne présidentielle qui a eu lieu en 2012-2013 de mémoire, où il y avait eu beaucoup de manifestations, ça s'appelait les manifestations des bougies, notamment d'étudiants qui protestaient contre la candidate principale, qui était la fille d'un ancien dictateur coréen. Donc voilà, on trouve plein de thèmes, et c'est vrai que ça reflète assez bien ce que moi j'ai envie de publier, ce qui m'intéresse de publier au niveau des éditions Ça et là. On a aussi donc fin septembre le nouveau livre d'une autrice taïwanaise qui vit à Paris depuis quelques années, qui s'appelle Li Qinlin, avec laquelle on travaille régulièrement. C'est le 3e livre d'elle qu'on publie. Alors elle est vraiment dans le registre de l'autobiographie. Le premier livre d'elle qu'on avait publié s'appelait Formose, racontait son enfance à Taïwan et qu'est-ce que ça faisait de quitter Taïwan à une vingtaine d'années pour venir s'installer dans un pays étranger, en l'occurrence la France. Et là, Guantao chez moi est un peu la suite de Formose, et ça raconte sa vie maintenant en France et tous les problèmes d'acceptation qu'elle peut rencontrer, toutes les vexations, l'espèce de racisme à bas bruit auquel elle est confrontée, et ça parle du coup de ce que ça fait de plus vraiment être taïwanaise, parce qu'elle a quitté, elle ne vit plus à Taïwan et elle a des problèmes avec sa famille puisqu'elle voit les membres de sa famille de façon très irrégulière, plus vraiment se considérer comme taïwanaise et de pas avoir vraiment l'impression d'être considérée comme française parce que elle a encore un accent et on lui reproche encore de faire des fautes. Et ça, je trouve que c'est une thématique qui m'intéresse vraiment énormément et qu'elle aborde de façon assez dure, hein, parce que c'est évidemment comme autobiographique, elle parle de choses qui sont difficiles, mais c'est un travail qui est très intéressant avec un dessin qui est aussi particulier, qui est au crayon à papier. Une forme quasiment du manga, parce qu'elle est très, très influencée dans son enfance par le manga, puisqu'à l'époque, pendant longtemps, une cinquantaine d'années, Taïwan a été une colonie japonaise, donc ce qu'il disait, c'était surtout du manga.
Bah, dans tout ce que tu publies, chaque fois, mais je suis aussi intéressé par les styles graphiques très différents, et on sent des influences culturelles, plastiques, de plein de pays à chaque fois. Ouais. Ça, souvent, c'est une surprise.
Ouais.
Et enfin, moi, je rentre souvent par le dessin avant de rentrer par l'histoire.
Ouais.
Et chaque fois, c'est un truc très intéressant, ça. Il y a un gros mélange dans tout ton catalogue.
Ouais, c'est vrai que de ce point de vue-là, moi, j'ai pas du tout j'ai pas de barrière, quoi. C'est-à-dire que la seule barrière que j'ai, je dirais que c'est sur le style classique. J'ai lu énormément de bandes dessinées classiques franco-belges dans mon enfance, dans mon adolescence, quand j'étais jeune adulte. Et c'est un registre que maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à lire. Alors qu'effectivement, j'aime maintenant les partis pris forts, en fait, stylistiques, c'est-à-dire des gens qui ont un trait, qui représentent que ce soit les personnages ou les décors de façon très stylisée. En général, c'est assez client. Et c'est vrai que je porte plus d'attention aussi à la narration, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé de publier des bandes dessinées qui, objectivement, n'étaient pas très bien dessinées. Je pense à une autrice qui s'appelle Rosaline Penfold, par exemple, qui avait fait une bande dessinée sur les violences conjugales qui s'appelait Dans les sables mouvants. Clairement, c'était pas une grande dessinatrice, mais elle maîtrisait la grammaire de nos bandes dessinées. Son découpage était tout à fait intéressant et elle arrivait à faire passer plein d'idées et raconter son histoire de façon poignante. Pour le coup, on avait beaucoup d'empathie pour ce qui lui arrivait et elle montrait ce que c'était que de vivre dans cet enfer et les violences conjugales, parce que ça avait duré des années. Et c'est vrai que moi, j'étais rentré complètement dans l'histoire, et son dessin, soit par endroits peut-être un peu maladroit ou mal maîtrisé, ça ne me gênait pas du tout. Donc, du coup, c'est vrai qu'on va pouvoir trouver des styles graphiques très, très, très différents. C'est extrêmement hétérogène ce qu'il peut y avoir dans le catalogue de ça et là, avec des auteurs qui font du noir et blanc, des auteurs qui font de la micro, des auteurs qui font de la couleur, et des auteurs qui ont des registres plutôt de dessins, limite de l'ébauche, on va dire, du croquis, et puis d'autres qui ont des dessins beaucoup plus affirmés ou beaucoup plus travaillés. Mais tout ça, tous ces registres-là peuvent m'intéresser quand l'histoire est bien racontée. Parce que c'est vrai que c'est un terme un peu galvaudé qui des fois est peut-être mal compris ou des gens sont réticents à utiliser, mais moi je l'utilise volontiers. Le roman graphique, pour moi ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une narration séquentielle, une narration de bande dessinée, mais le côté roman, le côté narratif, l'emporte souvent sur le côté graphique.
Tu nous en présentes un dernier ?
Oui, alors c'est le dernier, c'est l'avant-dernier qui paraîtra cette année, qui s'appelle Walk Me to the Corner de Daniel Furmark. C'est une autrice que j'ai mentionnée tout à l'heure, une autrice suédoise avec laquelle on travaille depuis quelques années, puisque c'est le sixième titre d'elle qu'on va publier. Un roman graphique donc, qui fait 230 pages, qui est très réaliste, qui raconte l'histoire d'une Suédoise d'une cinquantaine d'années qui va tomber amoureuse du jour au lendemain d'une autre Suédoise qu'à son âge, sauf qu'elle est mariée, enfin les deux sont mariées d'ailleurs, une avec une femme, et elle, la personnage principal, est mariée avec un homme et elle a deux enfants. Et donc elle raconte cette histoire d'amour complètement passionnelle et tous les dégâts que ça peut causer à son environnement, à son entourage, et comment elle va réussir à gérer ça. Et c'est tout en couleurs avec des... C'est la première fois qu'elle fait aussi peu de décors. Anil Sharma, qu'elle est très connue pour ses paysages qu'elle dessine à la peinture, en fait. Et là, on retrouve sa patte de coloriste, en fait, de peintre, mais dans un environnement plus urbain et centré sur ses personnages. On est vraiment dans un récit très, très intime et très intéressant sur une thématique aussi que je trouve très intéressante et de société. Et c'est l'avant-dernier titre qu'il publiera cette année, le dernier étant un nouvel ouvrage de Derf Back Derf, notre auteur américain.
Je voulais qu'on en parle.
ça tombe bien, ça fait une super transition. On va publier un petit livre de 56 pages qui s'appelle L'année des ordures, qui est autobiographique lui aussi, complètement humoristique et déconnant, qui raconte l'année qu'il a passé à être éboueur, et qui est en fait le prototype d'un roman graphique beaucoup plus dense de 240 pages qu'il a publié des années plus tard, qui s'appelle Trashed, et que nous on a publié à 3-4 ans. Et j'ai toujours beaucoup aimé l'année des ordures, qui est vraiment sur une veine entièrement humoristique, alors que Trashed, son roman graphique, était très documentaire aussi.
C'était pas très drôle, hein, Trashed.
Trashed a hésité, il y avait des passages humoristiques et des passages qui étaient vraiment sur les dégâts de la société de consommation. Il y avait, et puis ça se passait dans l'Amérique d'aujourd'hui, alors que l'année des ordures se passe dans les années 80, à l'époque où Derf McDerf a effectivement été éboueur entre la fac et entre 1979 et 1980, quand il a quitté le lycée et qu'il n'était pas encore en fac, en fait. Ça sera notre dernier livre de l'année.
Bah Serge, je te remercie. On va mettre toutes ces couvertures sur le site de la radio, les liens et tout pour les trouver, pour les feuilleter, parce que sur ton site, on peut télécharger des extraits. Ça, c'est vraiment un truc très chouette et très agréable pour découvrir les bouquins. Je te remercie et je te dis à bientôt.
Merci à toi et puis à bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.